Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence, pour cette soirée organisée par la Bibliothèque publique d'information autour de Gemma Bovary. Nous allons y faire connaissance, vous rencontrer ou retrouver Posy Simons et Anne Fontaine. Et bien évidemment, Jean-Claude Loiseau qui animera cette rencontre, accompagné également par Jean-Luc Fromental qui lui aussi nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Je voulais remercier Sylvie Chabroux, avec qui j'ai eu le plaisir d'organiser cette soirée, et Jean-Luc Fromental également de chez De Noël Graphique. Bonne soirée.
Bien, donc l'essentiel est dit sur les gens présents sur cette estrade. Je voulais quand même ajouter quelques éléments. Posy Simons, qui pour nous Français a été révélée effectivement par Gemma Bovary, pas Bovary. Gemma Bovary, qui est sortie en 2002 en France, je pense, quelque chose comme ça, et qui a depuis 2000, oui, et qui depuis a sorti un autre livre. Alors on va dire comment on appelle ça. Est-ce que c'est un roman graphique ou pas? On en parlera tout à l'heure. Enfin, un autre livre avec du texte et du dessin, on va dire pour l'instant, qui s'appelle Tara Madrew, et puis est sorti avant les vacances, au printemps, je pense. À la fin du printemps, Literary Life, qui est un recueil de chroniques que vous faisiez dans le Guardian sur la vie littéraire en Angleterre, qui est, de mon point de vue, quelque chose d'absolument savoureux, parce que c'est une manière de décrire les coulisses d'un monde littéraire qui doit ressembler plus ou moins au nôtre, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de différences, on en parlera. Et donc ça, c'est des trois livres que nous, Français, nous connaissons, mais vous avez un parcours avant ça très important qui, on ne va pas tout raconter. J'ai quand même envie de citer l'éternelle référence au fait qu'à 17 ans, vous étiez à la Sorbonne, parce que ça va expliquer notamment pourquoi vous parlez si bien le français. Donc en gros, pour résumer simplement, vous avez fait des études d'art après être passé par la Sorbonne à Londres pendant 4 ans. Et vous avez, je saute des étapes, vous avez fait l'essentiel de votre carrière de dessinatrice au Guardian, journal anglais, on dirait libéral chez vous, on dirait de gauche chez nous. Et vous avez commencé là par des illustrations, et puis vous êtes passé à une série très célèbre en Angleterre qui s'appelait les Webbers, enfin qu'on a fini par synthétiser en disant les Webbers, qu'on aimerait bien voir en France. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça n'a pas été encore adapté. On en parlera ça avec l'éditeur. Voilà. Et donc, ces trois livres, pour nous, c'est la découverte d'un très grand dessinateur, des grandes dessinatrices, pardon, qui a été très, très, très louangée, et pas seulement en France et en Angleterre. Et alors, je me fie à Wikipédia, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais en tout cas, j'ai noté que vous aviez été nommé à Londres Cartoonist of the Year 2 années de suite, que vous êtes membre de l'Ordre de l'Empire britannique. Ça, c'est très impressionnant. Ça, il faudra vous en expliquer. Et pour service rendu à l'industrie de la presse, qui quand même n'est pas rien, vu la situation de la presse en général et aujourd'hui en particulier. Et puis en 2004, vous êtes devenu membre de la Royal Society of Literature, qui est en gros l'Académie française chez vous. Donc vous êtes une personnalité qui dépasse de loin ce qu'on a tendance à appeler la bande dessinée de manière un peu réductrice et j'allais dire péjorative, puisque c'est de la littérature, et que donc vous êtes chez vous une personnalité qui appartient au monde de la littérature. Là-dessus, vous voulez ajouter quelque chose? Je n'ai pas dit trop de bêtises, c'est à peu près correct?
Non, c'était très juste.
Bon, merci. Le reste, on va voir. Anne Fontaine, je la présente pour ceux qui ignoreraient encore qu'elle est la réalisatrice de 14 films, enfin je dirais 13 et demi, puisque l'un d'eux était un moyen-métrage d'une heure. À 1h10. Alors, 14 films, soyons précis. Le premier, les histoires finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Ouais. Nettoyage à sec, qui pour moi reste un film clé dans votre carrière, parce que c'était très surprenant. On ne va pas tous les citer, il y en a 14. Il y a Comment j'ai tué mon père, qui est un film très étonnant avec Michel Bouquet. Et puis plus récemment, il y a eu Entre ses mains avec Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde. Alors pourquoi je cite tous ces titres? Et puis Coco avant Chanel, qui est une biographie dont on a beaucoup parlé à la sortie, puisque c'est un film qui a connu un certain succès. Et enfin, un film en langue anglaise avec des actrices américaines qui s'appelle Perfect Mothers. Et alors pourquoi je cite ces titres? C'est pas tellement pour énumérer une filmographie, c'est parce que, d'abord, deux choses. La première, c'est que ces films, vous avez été très régulièrement nominé pour les Césars de la meilleure adaptation au meilleur scénario, ce qui veut dire quelque chose en termes d'écriture. Et ensuite, sur la diversité des genres, c'est-à-dire que vous avez vraiment, j'allais dire, balayé un certain nombre de genres, depuis la comédie vraiment de mœurs pure et simple, au thriller, en passant par le biopic, comme dirait notre ami Posy, et cette généralité, Cette diversité d'approche, cette diversité de style, je trouve, définit complètement ce qu'a été votre travail dans le cinéma depuis une grosse vingtaine d'années. Donc l'envie de ne pas bouger, enfin de bouger plutôt, de ne pas vous figer dans un style, dans un registre, dans un ton. On peut résumer ça comme ça, vous êtes d'accord avec cette idée?
Je vais dire comme Posy, je suis entièrement d'accord.
Bon, ben on a
pour
plus
l'instant.
Rien à dire. Pour vous, que ça dure. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le film est sorti le 10 septembre. Et donc, c'est l'adaptation de Gemma Bovary. Et comme Gemma Bovary, on va en parler beaucoup par la suite, c'est quand même le point de départ, c'est le Madame Bovary de Flaubert. Posy nous expliquera longuement pourquoi et comment. J'avais envie tout de suite, pour lancer les choses visuellement, qu'on envoie un extrait où dans le film, Fabrice Luchini explique très bien, en une phrase, une minute, ce qu'est pour lui et ce qu'est pour beaucoup de gens Madame Bovary. Donc là, on va voir l'extrait.
Bonjour, ça va les pommes cette année?
Il n'y en a pas trop. Ouais, tout de même, il y en a. Hein.
Faut dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Faut dire qu'il y en a, il n'y en a pas.
Ouais. Yes. Bonjour, Madame Bovary.
Bonjour.
Gus, tu arrêtes. Tu arrêtes, Gus, d'embêter la petite, là.
Oh, gentil.
Vous l'avez lu?
Non.
C'est un chef-d'œuvre. Ça m'a foudroyé à l'âge de 16 ans. Une femme qui attend tout de l'amour et qui est toujours déçue. Une histoire banale racontée par un génie. Flaubert a inventé un caractère qui est devenu universel sur une femme qui s'ennuie. C'est devenu presque un archétype. Archetype, you know? C'est un peu compliqué, hein, ce que je vous raconte, non?
Non. Mais ça a l'air vachement marrant.
Mais je sais pas si c'est vachement marrant, mais en tout cas, vous maîtrisez de mieux en mieux la langue française, non?
Merci. Oui, Carrington. Carrington, allô.
Gus, tu viens.
À démarrer par cet extrait, c'était parce qu'évidemment, logiquement, Gemma Bovary a quelque chose à voir avec Flaubert. Et je voulais demander, avant de demander à Posy pourquoi Madame Bovary et le processus par lequel elle est arrivée à en tirer ce qu'elle en a tiré, je voulais demander à Anne Fontaine... son approche du livre, c'est-à-dire que, bon, c'est une question un peu brutale, mais le premier déclic, quand vous avez lu entre les mains de Gemma Bovary, ça vous a évoqué Emma Bovary, et votre réaction, c'était quoi?
En fait, j'ai découvert ce livre sur le bureau de mon producteur. Il ne m'était pas adressé particulièrement, et j'ai tout de suite été intriguée par le dessin de la couverture et le titre. J'ai tout de suite vu, évidemment, qu'il y avait un rapport avec Madame Bovary, mais il y avait tout de suite l'humour aussi et le décalage. Donc j'ai tout de suite eu envie de le lire et de le découvrir. Il se trouve que Madame Bovary, quand j'avais 16 ans à peu près, a été un roman qui m'a hantée, comme beaucoup de jeunes femmes, je pense. Et donc j'ai eu une curiosité. Mais c'est vraiment, je crois, l'humour qui m'a attirée. L'idée qu'il y ait de l'humour dans Madame Bovary, parce que Madame Bovary, on ne peut pas dire que ce soit un roman où l'humour soit vraiment au centre. Et ensuite, j'ai lu le livre vraiment comme un roman. C'est un roman graphique, certes, mais ça se lit d'un point de vue littéraire. C'est autre chose, c'est autre chose. Mais c'est très, très ludique, quoi, comme façon, finalement, de parler d'un personnage si célèbre, si emblématique du féminin. Et donc tout de suite, j'ai une empathie pour le ton.
Alors, il faut expliquer, après Posy va parler, mais il faut expliquer que le point de départ, effectivement, c'est Madame Bovary, mais que c'est évidemment très décalé pour plein de raisons. Alors comment Alors, la question, elle est un peu bateau, mais on ne peut pas y échapper. Comment l'idée vient un jour de prendre Madame Bovary pour en faire quelque chose qui est totalement lié et en résonance avec Madame Bovary et tout à fait autre chose?
Au départ, c'était une commande du journal. Ils m'ont invité de faire une histoire en feuilleton, en 100 épisodes. Et puis, je me suis allée en vacances en Italie. J'ai pas eu aucune idée comment faire. Et c'était sur la terrasse d'un café. Et il y avait une très, très belle Italienne qui était là avec, je crois, son amoureux, qu'elle traitait comme un chien. Et elle était entourée de son shopping, de Prada et de tout ça. Et tout d'un coup, elle commençait de pousser des soupirs. Et c'était très impressionnant. Nous avons dit, ah, mais quel désespoir, quel ennui. And we said, it's Madame Bovary. And c'est là que j'ai eu l'idée. Je suis allée, quand je rentrais en Angleterre, je disais à mon éditeur, bon, c'est Madame Bovary, peut-être de nos jours, et je crois qu'elle soit anglaise.
Et c'est parti de ce personnage réel que vous avez croisé. Oui. Et vous aviez lu, évidemment, Emma Bovary avant ça.
Oui, j'ai lu Madame Bovary quand j'avais 15 ans en français avec le dictionnaire tout le temps. Et ça m'a beaucoup choquée. Mais...
Qu'est-ce qui vous a choquée?
Parce qu'elle était, comme mère, elle était cruelle. Et à la fin, sa mort est épouvantable. Oui. Et vraiment le temps. Mais j'ai bien apprécié tous les détails.
Mais l'idée, vous expliquerez après le processus qui vous a amené à dessiner et puis à concevoir, mais l'idée que ça pouvait, partant de Madame Bovary, faire un roman graphique ou un roman illustré, c'était assez évident très vite ou ça a été un long processus de réflexion avant de passer à la réalisation?
C'était quand je suis rentrée en Angleterre, j'ai relu Madame Bovary et puis j'ai pris le livre et je l'ai mis dans un tiroir et j'ai fermé à clé parce que je ne voulais pas être influencé par le texte du grand Gustave. Parce que, et en effet, sans écrire un mot, j'ai commencé dans un carnet de dessiner les personnages.
Anne, vous aviez, vous aussi, l'adaptation, on va en parler, mais vous avez éprouvé le besoin de relire Madame Bovary avant de vous lancer dans cette adaptation?
Je l'ai relu d'abord par petits bouts, en fait, puis j'ai recommencé, je l'ai lu par le milieu au départ, et puis finalement j'ai tout recommencé. Et en fait, ce qui m'a surtout frappé, c'est de le lire pas mal d'années plus tard, le choc que ça provoque, et la richesse incroyable, la modernité incroyable. On peut le relire à plusieurs âges, c'est vraiment assez fascinant pour ça, c'est vraiment très puissant. Quoi.
Et je posais la question parce qu'effectivement, c'est assez rare qu'un chef-d'œuvre de la littérature devienne un roman graphique qui devient lui-même un film. Et c'est cette démarche-là qui est intéressante, de voir comment le passage de l'un à l'autre a modifié, et on va voir comment votre film aussi a modifié la vision, ou en tout cas certains aspects du livre de Pozzi. Et donc c'est assez troublant même, parce que moi j'ai fait comme vous l'essai de lire, enfin de relire, de parcourir, je n'ai pas tout relu page à page, Madame Bovary, pour essayer de retrouver, et paradoxalement je ne retrouvais pas grand-chose, je retrouvais des éléments, mais je ne retrouvais pas grand-chose. Donc chacune a son stade trié, j'allais dire, dans le stade précédent pour faire sa propre œuvre. C'est ça que je trouvais intéressant et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir ensemble ce soir, d'ailleurs.
Mais je pense, enfin moi en tout cas, j'aurais jamais adapté au cinéma Madame Bovary.
Ça a été fait, cela dit.
Oui, ça a été fait. Mais justement, c'est quelque chose qui, enfin, c'est pas transmissible littéralement au cinéma. C'est en dessous, quoi. On peut pas. C'est un tel chef-d'œuvre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je veux dire, c'est.
Posy, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez enfermé le livre à clé après l'avoir relu, c'est d'être perturbé par l'idée de vous confronter à l'écriture de Flaubert, à la richesse du livre?
Oui, parce que vraiment c'est un hommage, mais aussi j'ai pris des grandes libertés.
On est loin.
Et je vous prie de m'excuser parce que c'est...
Je suis peut-être un peu simple d'esprit, mais je vous pose une question toute bête, c'est pourquoi partir de Emma Bovary pour aller très loin de Madame Bovary? Vous aviez besoin de ce déclic? Et ça a été vrai d'ailleurs pour le deuxième, Tarma Adlou, c'est pareil, vous êtes parti d'un roman. Vous aviez besoin de ce déclic pour...
C'était avant Tomorrow Drew.
Mm. Oui.
Mais j'ai pas...
Non, ce que je veux dire, est-ce que vous aviez...
Pas exactement le roman, non, mais c'était italienne, parce que... Vous savez très bien qu'est-ce que c'est le bovarisme. Et pour moi, c'était encore là. Ça dure toujours, bovarisme. Et ça m'intéresse à cette époque. Il y avait... c'était avant le tunnel, mais il y avait un train d'Anglais qui était en train d'acheter toute la Normandie et la Bretagne... Et ça m'intéressait aussi parce qu'il y a un mythe en Angleterre, c'est le rêve de cottage à la campagne profonde. Et Angleterre, c'est une toute, en comparaison, c'est une petite île, mais en
petite
France...
Petite île.
Oui, petite île. En France.
Vous aviez envisagé de transposer l'action dans le midi à un moment, dans le sud ou dans
Oui, c'était dans le midi ou en Dordogne, parce qu'il y a beaucoup d'anglais là. Mais après plus mûre réflexion, je pensais que ça. Il faut aller que ça déroule dans un climat plus pluvieux, plus gris, plus froid,
plus anglais quoi.
Plus anglais ou oui c'est ça. Et c'est Normandie. Et
puis c'était là où se déroulait l'action du livre de Flaubert.
Exactement. Voilà. Et c'est bien pluvieux et c'est un ami breton qui disait. Voilà, Rouen, c'est le pot de chambre de la Normandie.
C'est pas très aimable.
Non, mais il est breton.
Bien, alors vous allez nous montrer un peu comment, partant, on a vu le déclic, vous allez nous montrer avec des images comment vous avez fait la pré-production, comme on dit au cinéma, de ce livre, c'est-à-dire les tâtonnements, les recherches graphiques, les essais, les doutes.
This one. I got another one. Bon, ça c'est la couverture. Et ça c'est le premier épisode en feuilleton dans Le Guardian. Et ils ont imposé le format qui est pour une bande dessinée, c'est tout à fait bizarre parce que c'est trois colonnes. Sur la longueur de la page et c'est pas horizontal comme mais après quelques temps c'était un format que j'ai bien apprendre comment maîtriser.
Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais au début c'était pas évident comme format, c'était pas un format courant pour raconter une histoire en image dans le journal. Ces trois colonnes en hauteur, c'était particulier.
C'est tout à fait. Ouais. C'est tout à fait. J'étais très complexée. J'ai demandé pourquoi c'est pas horizontal. Il n'y a pas de place. Et avant d'écrire un mot, j'ai commencé à dessiner les personnages dans un carnet. Et voilà les premiers croquis. C'est une Anglaise bourgeoise qui n'est pas très belle, Mrs. Bovary, Madame Bovary. Voilà dans un not very nice dress. Parce que c'était un roman de 19e, j'ai commencé à faire des croquis avec un air de 19e. Et là. Et puis, à ce temps-là, Lady Di était vivante. Et j'aimais comment elle vous regarde au coin des yeux ou en baissant la tête. D'une manière séduisante. Et j'ai emprunté son regard. Elle est là, au fond. Et j'ai prévu le métamorphose de Gemma parce que quand elle arrive en Normandie, c'est une Anglaise un peu mal fagotée, un peu rond, avec les jambes mal rasées. Et puis...
Si vous permettez que je complète, parce que c'est dans votre livre, j'ai noté, parce que ça m'a beaucoup frappé. C'est le personnage qui parle. Ce qui est génial en Angleterre, c'est qu'on peut ressembler à un tas pendant des jours sans que personne ne le remarque. Les Français sont convaincus de la nécessité d'être en représentation 24 heures sur 24. Voilà. D'où la transformation avant-après.
Ah oui. Bon, mais elle transforme, elle est devenue plus française, plus raffinée, plus sexy, je crois.
Le French polish, vous dites. Dans le...
Oui, le French polish. Oui, c'est ça. Elle va faire chauffer sa carte et faire du shopping. Et...
Faire chauffer sa carte, on dit comme ça en anglais, faire chauffer
sa carte. Sa carte bancaire. Et voilà, Monsieur Joubert, c'est le premier croquis de lui. C'est un type que j'ai vu dans un bar en Bretagne et il m'a beaucoup plu. Je crois qu'il était peut-être 68 heures, je ne sais pas. Et voilà les premiers croquis de Charlie. Il est un peu rond aussi. Et ça, c'est Madame Sanier. C'était la femme du Monsieur Sanier, qui c'est l'avocat. Et voici une comparaison entre les enfants français. À ce temps-là, Cyrillus était très fort et les enfants anglais.
C'est lesquels, des Français, les
Anglais? Et je crois que pour dessiner un feuilleton, c'est un peu comme dessiner un film, parce que on fait tous. On est scénariste, on est producteur, on fait du casting, on fait l'éclairage, le régisseur et tout ça. Et location, ça c'est location. Il faut faire des petits plans où se trouvent les maisons, le château, etc. On a parlé du Provence. Voilà, j'ai fait des croquis de Provence. J'ai fait des croquis en Normandie. Je suis allée à Rye. Tout près de Normandie, que c'était la base pour Yonville, dans le roman de Flaubert. Et il fallait faire des petits plans de la maison aussi, où se trouvent les waters et les chambres et tout ça. Et la maison. Et la campagne. Et voici comment je travaille. Je n'avais pas d'ordinateur. C'était tout à la main. Et je commence d'écrire n'importe quoi, partout. Et Et voilà un plan. Et ça, c'est... j'ai demandé le mot pour le cutting room. Et c'est... voilà.
Le montage. C'est, le montage.
Oui, montage. Le montage. Où on coupe les scènes. Et voilà deux... chez moi aussi, j'ai coupé des scènes. Voilà, voici deux scènes qui ne sont pas dans le livre ni dans le journal, que j'ai coupées parce que ça a dévié trop de l'intrigue. Et je n'avais que 100 épisodes. Il fallait toujours qu'on tienne le fil conducteur. Oui. Et je crois que c'est, oui, c'est tout.
Parce que, ce que je trouve très intéressant, je vous pose la question à Anne Fontaine, vous aviez vu ces travaux de pré-production de Gemma de...
Non, mais j'ai eu la chance, quand j'ai rencontré Posy à Londres, elle m'a en fait parlé de la genèse, de comment est arrivé justement ce personnage, parce que moi ce qui m'intriguait aussi, c'est la même chose que ce que vous avez demandé, c'est-à-dire comment elle a eu l'idée, cette italienne, elle m'en a parlé, puis elle m'a montré des dessins de... inspiré par Lady Diana, enfin en tout cas sur ce regard effectivement par en dessous, extrêmement prédatrice. Et donc j'ai vu des dessins, oui j'en ai vu, mais c'est incroyable le travail de recherche, de précision, tellement c'est pensé, enfin c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir pour moi avec la bande dessinée. Moi je ne suis pas très sensible à la bande dessinée en fait, personnellement.
Vous avez tort.
Ben, peut-être, mais c'est pas mon, c'est pas ma.
Je plaisante.
Alors là, c'est une plongée. C'est tellement précis. D'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que c'est difficile et intimidant de finalement en faire un film, parce qu'il faut en même temps trahir et ne pas trahir, évidemment.
Vous avez dit dans le dossier de presse du film une chose qu'une réalisatrice scénariste ne dit pas forcément. Quand elle adapte un livre, c'est vous l'avez prolongé. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment adapté, vous avez prolongé. Comme si le livre vous avait entraîné et que ça s'était passé de manière relativement naturelle. Est-ce que c'est la bonne interprétation ou est-ce que...
Il y a beaucoup de scènes qui sont extrêmement fidèles au livre. Puis il y a des moments, des scènes qui n'existent pas dans le livre. Et il fallait avoir une extension... parce que ce n'est pas le même rapport à l'humanité d'incarner des personnages au cinéma. Il y a une autre dimension. Peut-être j'ai été plus dans la relation sensuelle, disons, des personnages. Et de surcroît, la fin que Posy avait trouvée ne pouvait pas fonctionner dans un film. Donc on s'est permis, avec son autorisation, d'imaginer une fin...
Et si vous ne l'avez pas donné ?
Comment ?
Si elle ne vous avait pas donné l'autorisation ?
J'étais assez optimiste.
Mais oui, Posy, vous avez expliqué que 100 épisodes, vous ne les avez pas réalisés à la suite avant de les publier, donc vous les avez faites au fur et à mesure. Donc dans, oui. dans une espèce de, maintenant on dirait pression, mais enfin de stress, d'angoisse peut-être aussi. Et en plus, et c'est peut-être plus important, au fil du temps, les choses ont évolué, et notamment sur comment la faire mourir, puisqu'il faut qu'elle meure à la fin, mais comment. Est-ce que c'est... Est-ce que cette évolution, ça vous a stimulé dans l'imagination, le fait de ne pas être bloqué au départ avec un scénario précis
Au départ, j'ai commencé avec presque 20 épisodes qui étaient tout faits. Et parce que j'ai travaillé pour le journal pendant many... 30 ans à cette époque, et c'était toujours des commandes très spontanées. J'étais habituée d'improviser et de travailler assez vite, mais c'était pas une bonne calculation parce que la publication était plus rapide que mon rythme de travail, et à la fin c'était
une course contre la montre.
Ah oui, c'était affreux. Parce que c'était tous les jours.
Vous expliquez que vous avez travaillé pendant 2 ans, week-end compris, sans respirer pratiquement.
Non, parce que ça a duré, parce que c'était publié tous les jours, ça a duré que 6 mois. Alors c'était 6 mois de travailler comme une brute et puis grandes vacances.
Ouais, et en réalité, sur la mort qui a été votre grande obsession, comment elle allait mourir, parce que vous aviez...
Ah oui, parce que j'ai...
Il fallait qu'elle meure quand même, hein, c'était la moindre des choses.
Oui, j'ai écrit un outline avant. Et j'ai écrit, c'était comme Madame Bovary, elle va prendre une overdose. Et j'ai fait quelques croquis. Quand l'épisode approche, j'ai fait encore des croquis de Gemma en train de prendre des pilules. Elle était en train de... écrire un note à Charlie et c'est si elle dit moi je ne fais pas ça et moi j'étais en train de dire die et elle était,
c'est sympa
et elle disait non je ne fais pas ça, je ne suis pas suicide. Là, c'est bugger, c'est moi qui maintenant je... C'est moi qui... I have to kill you.
Il faut que je te tue.
Il faut que je tue. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du pain.
Ouais.
Ce qui est l'idée géniale, le pain.
C'est une dérision totale, c'est-à-dire...
C'est bien l'anglais, hein, comme type d'humour. Ah, mais moi, je sais que quand je l'ai lu la première fois, je me disais comment elle va faire pour que les deux destins se superposent. Alors, je me doutais bien qu'elle n'allait pas prendre de l'arsenic. Moi, j'ai pensé qu'elle ne se suiciderait pas. Mais d'imaginer que c'était avec le pain, ça, je dois dire que c'est vraiment...
Et en même temps, enfin, je ne sais pas si les gens, si les spectateurs ici dans la salle ont déjà vu le film, mais il ne faut pas trop, dans ce cas-là, spoiler, c'est-à-dire dévoiler, parce qu'il y a une ambiguïté. Quand on découvre ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'on croit qui se passe. Elle est en train de... Voilà. Donc, il y a une espèce
de deuxième degré. De rebondissement jusqu'au bout. Ouais.
Alors, le jeu entre le livre et le film, c'était aussi une manière de... Comment dire? De prendre un original qui l'était à tout point de vue original. C'est-à-dire qu'on a plusieurs fois parlé de bande dessinée, de romans graphiques, et moi j'avais là pour le coup envie de poser la question à Jean-Luc Fromental, qui a été le premier lecteur de ce livre finalement, puisqu'il l'a édité, donc, et qui a été le traducteur avec sa compagne ici présente. Ça ne ressemblait d'ailleurs, depuis je ne sais pas s'il y a eu d'autres exemples qui se rapprochaient de ça, mais ça ne ressemblait pas du tout dans le rapport texte-image à ce qu'on avait habitude de voir dans la bande dessinée. Alors, comment est-ce que tu... Non pas définirait, mais quelle impression ça t'a fait, cette espèce de roman? Parce que là, c'est un roman qu'on lit, et ça prend un peu plus de temps que de lire une bande dessinée habituelle, et que le rapport texte-image, évidemment, est totalement original, et crée cette, cette force même du récit très particulier à Gemma Bovary, et qu'on retrouve après dans Tamara.
Moi, en tant qu'accumulateur de livres, je crois aux livres magiques. Donc celui-là en est un. Il est arrivé par un moyen extrêmement étrange. À l'époque, Lili Stein, qui est donc dans la salle et qui est la co-traductrice du livre avec moi, dont je suis le co-traducteur, disons plus exactement, si je ne veux pas me prendre un coup.
A
travaillé chez De Noël, était au comité de lecture de De Noël, et une jeune Héloïse d'Ormesson, bien connue de nos services, qui depuis a créé sa maison d'édition, est revenue de la foire de Londres avec ça sous son bras. Et elle avait goûté à la bande dessinée très brièvement, puisqu'elle elle s'était trouvée par des circonstances bizarres à publier chez Flammarion le Mouse de Spiegelman, à l'époque sous l'égide de Françoise Verny, etc., par des chemins assez bizarres. Et comme c'est une fille très, très intègre, Héloïse, et qu'elle estimait qu'elle ne connaissait pas grand-chose en bande dessinée, elle a dit à Lily, tiens, file ça à ton mec qui connaît bien la bande dessinée et qui nous dit ce qu'il en pense. Donc j'étais le premier à le lire, et je l'ai lu en une soirée, comme il faut lire la bande dessinée. C'est Wolinski qui disait, la bande dessinée, ça se lit allongé sur son lit en mangeant du chocolat. Donc exactement de cette façon-là. Et je me suis relevé enthousiaste en disant, il faut le faire tout de suite. Enfin, je veux dire, oui, oui, bien sûr, prenez-le, etc. Et il se trouve que ce livre est à l'origine de la collection que je dirige aujourd'hui chez De Noël.
Chez De Noël Graphique.
Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas tellement bonne presse, la bande dessinée, dans l'édition généraliste. On regardait ça d'un peu loin, il y avait des maisons spécialisées pour ça, comme dans d'autres domaines. Et le succès immédiat du livre, le fait que l'attaché de presse très snob de Noël à l'époque avait un peu fait le tordu le nez en disant oh, de la bande dessinée, qu'est-ce que je vais faire de ça, et vu arriver Posy, qu'il y ait eu un déchaînement de presse incroyable sur ce bouquin et qu'on ait vendu pas mal d'exemplaires, parce que c'est quand même un négoce, comme disait Pauvert. Donc tout ça a déclenché une espèce de truc en faveur de la bande dessinée chez De Noël, et Rubinstein, qui était le patron à l'époque, m'a dit tu veux pas créer une collection. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête. Donc c'est grâce à Posy et à ce livre que je me suis retrouvé à la tête de cette collection. Et ça a été en plus ce livre comme un phare, c'est-à-dire que ça a donné exactement le là de ce que je voulais pour cette collection. C'est une collection qui sorte de ce qu'est la bande dessinée naturellement, que j'aime bien parce que je suis un vieux lecteur de bande dessinée, j'ai œuvré, j'étais à Métal Hurlant, etc. Bon, j'ai un lourd passif dans le domaine.
Ça te vieillit, ça te vieillit, n'en parle pas trop.
J'assume mes rides. Comme Tallulah Bankhead, c'est mon actrice. Et j'ai pu fixer une espèce de cap grâce à ce livre en disant voilà, on va aller chercher des lecteurs qui aujourd'hui acceptent encore de lire des récits en images parce qu'il y a une espèce d'adolescence comme ça, enfin il y a cette espèce d'enfance prolongée qui continue chez les adultes et qui en même temps ont besoin de matière et de substances un peu plus consistantes, donc d'auteurs qui leur donnent ça et qui est une tendance romanesque. On ne pouvait pas trouver un meilleur modèle et un meilleur prototype que ce livre-là, qui, quand on l'a traduit à notre grande joie et stupeur avec Lily, d'abord c'est révélé être un délice à traduire parce que il y a tellement de malice dans le texte de Posy, qui est un écrivain, ce qui est quelque chose qu'on souligne moins souvent parce que elle a ce talent du dessin qui passe devant, qu'on voit plus immédiatement, mais qui est vraiment un écrivain.
Pas dans toutes les pages. Il y a des pages où le texte est quand même.
En proportion, le texte est important, mais ce que je veux dire, c'est que la facture du texte est très impressionnante. La traduction, c'est quelque chose qui est très sévère parce que tu es dans le texte au millimètre, donc que tu vois les manques aussi, les manquements d'un auteur aussi bien que ses forces. Et là, on a été très impressionnés et on s'est beaucoup amusé parce que c'est un texte très malicieux et qu'il fallait trouver des tas d'équivalents. Et ce qui a frappé, ce qui nous a frappé en premier dans ce texte-là, c'était moins que l'acquisition de Flaubert, qu'on aimait beaucoup. Moi, je suis un vieux fan de ce forme-là de roman. Je préfère Flaubert à Stendhal, d'une certaine manière. Ce qui nous a frappé, c'était le regard croisé entre les Français et les Anglais. Et ça, ce qui dominait complètement dans la lecture du livre qu'on avait, c'était ce regard d'une Anglaise sur la culture française qui renvoyait à la culture anglaise avec une espèce de circularité satirique comme ça qui fonctionnait de façon incroyablement juste. Et une étrangeté du côté des Français, ce qui est très agréable quand tu es français et que tu es observé comme un animal curieux.
On va en parler, voilà. Des rapports français-anglais, y compris dans le film d'ailleurs.
Et pour finir, c'est
non,
un
dans,
livre...
Dans le rapport physique entre le dessin et le texte, c'était très inhabituel.
J'avais jamais vu de soudure faite comme ça, j'avais jamais vu de passage, de liaison si harmonieuse. C'est comme la voix off au cinéma quand elle s'arrête et qu'on rentre dans une scène qui est complètement dialoguée et qu'on se rend pas compte qu'il y a une voix off qui s'est arrêtée ou qu'il même y avait une voix off, hein, dans les grands films à voix off, c'est comme ça que ça marche. On se rend pas compte qu'il y a un narrateur qui parle et qui tout d'un coup cède la place à des acteurs qui jouent. Là, c'est la même chose. On passe d'un texte qu'on lit, c'est-à-dire que c'est pas le même acte, à une image qu'on regarde et on s'en rend pas compte et on entend les voix et on voit les visages des personnages et on voit l'acting des personnages, c'est-à-dire qu'il y a un acting qui est fabuleux parce que Posy a un talent aussi graphique qui rend tout de suite ça, les expressions, etc. Voilà.
Mais ce que je voulais, effectivement, évidemment, quand on a lu ce livre, on est 100% d'accord avec ce que tu expliques, mais je voulais savoir, Posy, comment s'est établi cet équilibre texte-image qui varie d'ailleurs, c'est pas régulier, c'est ça aussi qui fait le côté original du livre, c'est-à-dire que le rapport entre le texte et l'image n'est pas le même d'une page à l'autre. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée très originale de jouer sur les espaces du texte et les espaces de l'image, qui n'est pas classique en bande dessinée, et d'autre part, qu'est-ce qui vous a déterminer à chaque moment de l'intrigue de choisir plutôt l'image ou plutôt le texte ?
D'abord, c'était il y a beaucoup de textes parce qu'il n'y avait que 100 épisodes. Donc, il fallait que je bourre mes plages d'intrigue. Et aussi parce que c'était dans un page, c'était entouré, la planche était entourée de publicité, des articles, des trucs comme ça. Je voulais que les lecteurs, ils devaient en avoir pour leur argent. C'est les deux choses pour bourrer l'intrigue et pour attirer les gens tous les jours. Au départ, c'était très difficile de faire, mais après quelques temps, j'ai appris comment le faire. Et il y a toujours un choix. Et d'abord, j'ai choisi pour les images, pour la mise en scène, pour décrire le temps, les personnages. S'il y a une conversation, une dispute, je toujours le dessin. Et puis, s'il y a de faire un passage avec un silence, parce que j'aime beaucoup ça dans les bandes dessinées. C'est un peu comme un film. C'est le silence sans parole. Et j'ai souhaité d'avoir plus d'espace de faire ça, mais cela n'était pas possible à cause du
format.
Du format et les, parce qu'il n'y a que...
Donc en fait, vous avez inventé un rapport texte-image pratiquement sans chercher à inventer quelque chose. C'est comme ça que c'est venu, c'était intuitif. Le rapport entre le texte et l'image, c'est une intuition que vous avez eue.
Oui, et je crois aussi, j'ai pas vu beaucoup de bandes dessinées parce que à cette époque en Angleterre, parce que j'ai toujours travaillé pour les journaux, et donc j'ai lu Art Spiegelman et j'ai vu de temps en temps des comics et des bandes dessinées, mais pas trop. Et quand je suis allée en France à Fnac et j'ai lu tous les albums avec un format qui est presque le même.
Le même, ouais. Oui. En hauteur,
hauteur
verticale.
Oui, ouais.
Et vous, quand vous êtes entré dans le livre, ce rapport texte-image, ça vous parlait particulièrement puisque c'était pratiquement comme, pas tout à fait, mais un storyboard. Ça pouvait être un début de storyboard.
Oui, mais ça, je ne me suis pas dit ça comme ça parce qu'en fait... moi, ce qui m'a énormément plu et qui a été difficile ensuite à, réadapter en film, c'était ce personnage Joubert, qui est un écrivain, enfin qui est à la place d'un écrivain, donc où il y a vraiment un aspect littéraire, où il parle énormément. Et en fait, c'était pas possible dans le film de restituer ça de cette façon-là. Donc, il fallait que je prenne vraiment une liberté pour incarner ce boulanger, certes assez cérébral et féru de littérature, mais d'une manière plus physique, sensuelle. Enfin, sensuelle, c'est un gros mot de dire que Fabrice Luchini est sensuel. Il y a que moi qui peux penser un truc pareil. Mais,
il était
tellement fait pour...
Vous le connaissez depuis longtemps, donc vous avez...
Je le connais depuis longtemps,
voilà.
C'est vrai. Mais, et puis j'ai pensé à lui, bon, bien sûr, parce que j'ai pensé qu'il incarnait un équivalent du personnage qui était dans la bande dessinée. Il est tellement intrinsèquement français, il a Flaubert dans les veines. Je veux dire, c'est quelqu'un bon, qui avait cette... Donc ça aussi, tout de suite, quand j'ai lu, je me suis dit, il y a quelqu'un en France qui est ce personnage tel que le décrit Posy. Et ensuite, en fait, non, c'est pas un storyboard. Parce que si on commence à appliquer pour un film les dessins, bien sûr qu'il y avait des cadres.
Ouais.
Mais il y en a certains sûrement qui ressemblent. Mais j'ai fait un peu comme Posy avec le roman de Flaubert. J'ai pas mis son livre, je l'ai pas caché, mais à un moment donné, j'ai essayé aussi de m'en libérer, ce qui n'est pas si facile que ça.
On va venir aux différences, mais je voudrais qu'on passe à un extrait qui explique, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, Joubert finalement finit par se en voyant cette femme, il finit par se raconter une histoire, par imaginer une histoire, et donc par craindre qu'il se passe le pire. Donc quelque part, il y a un fantasme qui se mêle à la réalité. Et c'est un extrait où il est fasciné par le fait que ces personnages s'appellent Gemma Bovary et Charles, et c'est au cours du dîner, c'est un petit extrait qu'on va passer juste pour rappeler qu'il est là aussi avec une vision très particulière des personnages qu'il a devant lui.
Je pensais qu'elle ne se vendrait jamais, cette bicoque.
Eh ben c'est fait, il y a des Anglais. Devinez comment ils s'appellent.
Mange, Julien.
Je n'ai pas faim.
Mange, t'es en pleine croissance, il faut te nourrir. Comment ils s'appellent?
Devinez.
Sherlock Holmes, James Bond, McDonald's.
Bovary. Bovary. Lui s'appelle Charles et elle Gemma. C'est pas dément? Ici, en Normandie, la même où Flaubert a écrit son chef-d'œuvre.
On a vu le film en classe, c'était trop nul.
Moi, je prépare la princesse de Kleb.
Moi, Calave Duty.
Non, mais écoute, là, on parle de livres, pas de jeux, vidéo.
Tu veux que je te dise? J'aimerais mieux que tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles.
Voilà. Et donc, c'était juste pour ajouter le fait que ce personnage de Joubert va involontairement provoquer une catastrophe. Bon. On a parlé de la différence entre du rapport entre les Anglais et les Français. Alors il y a là, on va enchaîner, c'est un peu un hasard de la discussion, mais on va enchaîner avec un autre extrait où justement on va voir les Anglais confrontés à l'image qui se font de la France dans la boulangerie de Joubert, et ils ont une image émerveillée de ce que c'est que la France et le pain français en particulier. This is France, c'est le titre de l'extrait.
France, Charlie. Look at it, it's all different. It's incredible.
It's wonderful.
Bonjour.
Bonjour.
Oh. Excusez-moi, monsieur. Celui-ci, c'est quoi?
C'est graines de tournesol. C'est une de mes spécialités.
Tournesol? What's that?
Sunflower. Sorry. God, it's the best. And it's organic. Sorry for interrupting.
No, it's all right. My French is terrible. We just moved here from London, so.
Oh, really? That's great. That's fantastic. Actually, we live here as well. I mean, my husband is English and I'm French. Oh, hi.
I'm Charlie. Hello. This is Gemma.
Oh, hi. Nice to meet you. I'm Wizzy.
Enchanté.
Anyway, that's a very good one.
Really? Je prends le sunflower. Je vais vous chercher le tournesol. Et ça, c'est quoi?
C'est la croquinette. Multicéréales. Mais je vous recommande plutôt celui-là. C'est plus doux. C'est à la graine de lin.
Je prends les tous.
Si je peux me permettre, on dit je les prends tous. Ou je prends le tout.
Oh, le tout. OK. The lot.
All of them.
Yeah.
Mm. 4,60€, s'il vous plaît.
À bientôt.
Au revoir. Bye.
Donc j'aime bien le ton de la comédie et je trouve que ça pose d'une manière évidemment amusante, ironique, ce qu'on pourrait appeler pompeusement les rapports entre les Français et les Anglais, et surtout l'image que les Anglais, ces Anglais-là en tout cas, se font de la France et des Français, de leur mode de vie, de leur art de vivre. Donc j'avais envie de vous entendre alternativement sur cette question, c'est-à-dire est-ce que la vision... que Posy, là je pose la question à Anne Fontaine, que Posy a des Français est conforme à une réalité ou est-ce que c'est pas un peu fantasmé? Je poserai la même question à Posy dans l'autre sens.
Bah, c'est amusant en tout cas. Évidemment, il y a une sorte d'idéalisation du pain, d'un pain extraordinaire qu'on fait. Ça correspond à une vérité, parce que moi j'ai vu quand même pas mal d'Anglais là où j'ai tourné, qui venaient dans la boulangerie en croyant que c'était une vraie boulangerie. Et qui était dans un état extatique à l'idée qu'il y a des pains. Donc, il y a une part de vérité, évidemment. Mais après, l'originalité, c'est d'arriver à être sur la crête de quelque chose qui est amusant. L'idée aussi que ce Français qui vend sa croquinette regarde avec une sorte d'ébahissement cette créature anglaise, certes, mais très attractive. Non, c'est amusant parce que tout le livre joue avec cette idée sans jamais être didactique, sans jamais être lourd, le livre de poésie. Donc j'ai essayé de restituer, parce que c'est une partie vraiment qui est très drôlatique.
Qui est quand même au cœur qui est un élément important de l'histoire, puisque c'est le rapport entre ce que ces Anglais imaginent de la France, du magnifique cottage et du lieu de rêve.
Et que la vie va être merveilleuse.
La vie sera comme dans un rêve et que finalement tout ça tourne en jus de boudin, pour parler en français.
Bah déjà, ils ont des fuites dans leur maison. La maison était soi-disant sublime parce qu'ancienne et dans son jus. Mais évidemment, il y a des flaques d'eau qui viennent du... Il y a les toilettes qui sont bouchées. Enfin, il y a un nombre de problèmes qui les détraquent.
Alors Posy, cette vision un peu sarcastique, ironique, on va dire, des Anglais voyant la France comme une espèce de paradis tellement extraordinaire, c'est quelque chose que vous avez observé, c'est quelque chose qui vous amusait de dénoncer, c'est une manière aussi satirique de dire aux Britanniques, puisqu'à l'origine vous faisiez ça pour les Anglais, vous faites des illusions.
Alors que quand j'ai écrit Madame Bovary, il n'avait pas de boulanger extraordinaire
en Angleterre.
Quelques ans après, Poilin, le pain de Poilin était arrivé. Et maintenant, c'est pas exactement vrai, ouais. Parce que le pain français, c'est partout, le pain italien, c'est là, et pain allemand, c'est tout à fait changé.
Sur le point précis du pain, mais sur le rapport, sur l'image que les Anglais se font des Français et inversement, c'est quand même des rapports, je ne sais pas si c'est vous qui le dites dans une interview ou vous, je crois que c'est vous, qu'il y a quand même des rapports chien et chat entre les Français et les Anglais depuis la guerre de 100 ans. Quoi.
Oui, c'est ça.
En gros.
Oui. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des... Parce que chez nous, je crois que les francophiles et francophobes, c'est le seul pays. Oui, c'est germanophobe, pas beaucoup germanophile, mais francophile et francophobe, vraiment, ça dure. Et en plus, on entend les Anglais tout le temps quand ils rentrent de la France, toujours ils disent « Oh, les routes, ou le vin, ou le fromage, ou la campagne, ou tous. » Et je me rappelle M. Joubert qui dit « Et nous, les Français
!» Il en a marre.
Oui,
mais ça, c'est dans le film aussi. C'est oui, à un moment donné, Lucchini, enfin Joubert, on a ras-le-bol qu'on parle que des fromages.
Et elle dit « J'adore les Français », mais pour des raisons différentes.
Il y a un autre élément quand même, c'est que vos Anglais sont particulièrement snobs. Donc il y avait aussi la volonté de...
Pas Charles et Gemma, ils ne sont pas très snobs.
Pas Charles et Gemma, mais leurs amis, par exemple, sont quand même...
Oui, leurs amis sont très riches, sont richissimes. Ils ont acheté une énorme maison. Ils dépensent une fortune sur la nourriture et tout ça. Oui, ils sont snobs.
Je posais cette question parce que c'est vrai que c'est quand même une tonalité générale de ce que vous faites, aussi bien dans ce livre-là que dans Tamara, après. C'est quand même une espèce de satire de ces milieux, je ne sais pas comment on dirait, bourgeois bobo, un peu bobo anglais, ce qu'on appelle ça comme ça maintenant en France. Mais il y a quand même cette volonté de satire quoi, sur les Anglais. C'est pas, à travers cette histoire-là, il y a aussi ça. Quoi, c'est quand même une catégorie d'Anglais qui...
Je crois qu'il y a des Anglais comme ça qui sont bien pensants. Il sait très bien, il se sent un peu coupable parce qu'ils sont riches ou parce qu'il y a les moyens d'acheter une maison en France. Ils ont une conscience, on dit ça ? Oui, une conscience pour les... pour les gens qui sont pauvres et tout ça, mais au même temps, il bouffe, il dépense de l'argent, il fait brûler, chauffer leurs cartes. Oui, vous parlez.
J'interviens juste pour dire que, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment à travers le film et le livre, il y a eu cette astuce remarquable qui a consisté à remplacer dans le couple des Anglais ignobles qui emploient
une Française,
Gemma, de mettre Elsa Silberstein qui est géniale.
Elle est snobissime.
Elle est au-delà du snob.
Elle est con. Elle est con. Elle n'est pas snob. Elle est con. Elle n'arrive pas à finir ses phrases en anglais parce qu'elle parle anglais formidablement pendant 20 secondes et ensuite ça se détériore. C'est génial. C'est une trouvaille incroyable.
C'est une bonne remarque parce que c'est quoi? Alors ça, c'est votre idée à vous parce que dans le livre, c'est un couple d'anglais, purement anglais.
Une fois, j'ai parlé avec Elsa Silberstein, je dois dire, et le ton avec lequel elle m'a parlé m'a fait penser qu'on pouvait avoir de la fantaisie et de mélanger l'anglais et le français, parce qu'elle parle parfaitement l'anglais, et donc quand elle explique des choses de décoration, c'est surréaliste.
Ah oui, c'est des moments. C'est
d'abord, elle a des concepts surréalistes sur l'idée du goût.
Et c'était très drôle. Elle était agaçante.
Elle est agaçante et en même temps exaspérante. Oui, mais en même temps, on l'aime bien aussi quand même. Moi, j'essaie jamais d'être contre un personnage. Il faut arriver quand même à lui donner quelque chose. Et elle a quand même quelque chose. Elle est absurde, mais elle a quelque chose de touchant.
Oui, absurde. Ah,
c'est pas l'actrice dont je parle, évidemment. Mais non, parce qu'elle a fait un personnage. Normalement, elle fait des personnages assez romantiques, assez lyriques. Et là, elle est vraiment dans un rôle très cocasse. C'est marrant de voir comment une actrice, justement, qui ne se voyait pas comme ça, tout d'un coup, bascule.
Alors, il faut en venir à ce que moi je trouve une des différences, voire la différence essentielle, enfin essentielle, en tout cas, une différence marquée entre le livre et le film, c'est le caractère de Gemma. C'est-à-dire que je trouve que dans le livre de Posy, Gemma a quelque chose de désagréable, d'agressif, de par moments antipathique, qui traite les gens souvent de manière très violente, très brutale, y compris son mari dont elle dit des horreurs. Mmh. Le traite de vrai con dans le texte. Enfin, je sais pas moi qui l'ai écrit, mais c'est bon. Et elle quand même. Il y a cette espèce de presque de noirceur chez elle, qui est pour une raison que vous allez m'expliquer. Alors d'abord, vous allez me dire pourquoi ce personnage n'est pas aussi sympathique qu'il pourrait l'être.
Je crois qu'elle est un peu comme Madame Bovary, qui n'est pas du tout...
Qui n'est pas sympathique.
Qui n'est pas très sympathique, mais à la fin, on a beaucoup de sympathie pour elle. Gemma, la mienne, elle est cruelle. Par exemple, quand son père lui offre de payer pour son mariage, elle répond « Je ne veux pas le gendre du mariage que tu peux m'offrir. » C'était cruel. Et aussi, elle a un ex-épouse de Charlie qui l'a titillée. Les beaux-enfants pour l'agacer. Elle a beaucoup à se plaindre. Et elle n'est pas contente.
Mais elle n'est pas contente non plus dans votre film. Mais ça, c'est pas là-dessus que vous jouez.
Non, c'est une autre insatisfaction. C'est une insatisfaction plus comme quelqu'un qui cherche quelque chose de très intense, qui se cherche en fait. Et j'étais consciente de la différence, bien sûr. Mais
j'imagine, bien sûr. C'est un choix, je veux
dire. Par rapport au film et par rapport au rapport qu'elle a avec les êtres, par rapport à son destin qui est cruel, qui est très cruel, je trouvais que c'était plus émouvant d'une certaine façon et plus intéressant. C'est une perception que j'ai eue de cette jeune femme, en fait, hein, qui n'est pas, justement, et qui dit « je ne suis pas Madame Bovary », et qui se libère du personnage. Et donc, du coup, la projection extrêmement forte et obsessionnelle que fait le personnage de Martin Joubert sur elle est une projection littéraire, artistique.
Fantasmée, complètement.
Au fond, elle a des points communs puisqu'elle couche avec un jeune châtelain, elle trompe son mari, elle attend quelque chose de plus fort, de plus intense, parce que Madame Bovary, c'est quoi? C'est une femme qui est sous un pommier et qui attend des poires. Donc elle a cette attente.
Je ne connaissais pas la formule.
Et
pas mal.
Oui, c'est une formule, je trouve qu'il l'identifie très fortement. Et donc, moi, je tenais beaucoup au moment où elle dit « Je ne suis pas Madame Bovary ». Et pourtant. Donc c'est une autre façon, c'est un autre axe.
Alors vous parliez de Joubert et du fait qu'il fantasmait. On va passer à un autre extrait qui est exactement, qui pose cette question-là, sur la manière dont il devient le metteur en scène, notamment, de la rencontre avec
Hervé Rodolphe,
qui
est une sorte de Rodolphe.
De Rodolphe dans le livre de Flaubert. Hervé au marché et il se comporte là carrément en metteur en scène. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en scène ce qu'il croit être l'histoire.
Oui. Ça, c'était écrit dans le livre, exactement.
Oui,
c'est vraiment une des scènes les plus
fidèles
au livre.
Et il est donc le metteur en scène de ce drame qu'il n'imagine pas, qu'il ne se passe pas. Il attend le drame. On va voir l'extrait maintenant.
C'est la première fois que je voyais ses jambes. Elle regardait les savons, les bougies, les éponges, des cochonneries pour touristes, des désodorisants au centre grotesque. C'est alors que j'ai vu Hervé de Bressigny. Alors là, il s'est produit quelque chose de très étrange. À la seconde où j'ai posé les yeux sur lui, j'ai eu l'impression d'être un metteur en scène. Un metteur en scène qui venait de crier « moteur ».
Comment ça va depuis l'autre jour ?
Bien, très bien, merci. Et vous, ça va ?
Ça va ? Depuis l'autre jour ?
Bien, très bien, merci. Et vous, comment ça va ?
Parfaitement.
Pas parfaitement, parfaitement, merci.
Ah, je me rappelle avoir éprouvé une étrange jubilation. Je les voyais déjà nus. Enlacée, Madame Bovary croisait le chemin du châtelain local, Rodolphe, tout comme Gemma venait de croiser celui d'Hervé.
Et ça, c'est quand même important dans le livre, parce que c'est lui qui se raconte l'histoire.
Quand j'ai vu ça, c'était palpitant de voir les dessins prendre vie comme ça. C'était extraordinaire.
Ouais. Cette idée, revenir au départ du livre, cette idée que ce personnage va devenir un metteur en scène, finalement, du drame qui va venir, c'est quelque chose qui était à la fois très, très original et en même temps, c'est venu. Ça vient d'où cette idée qu'il va être le metteur en scène de l'histoire ?
Au départ, j'ai écrit le texte en troisième personne. Et j'ai écrit peut-être 6 épisodes qui sont absolument moches. La narrative c'était affreux. Et c'était quand j'étais en train pour la première fois d'écrire un épisode avec Monsieur Joubert. Et quand je travaille, je parle à moi. I talk to myself.
Oui,
je me parle à moi-même. Et j'ai commencé de parler en anglais, mais avec un accent français. Et c'est un anglais très, très français, avec les mots qui n'existent pas en anglais, comme nervosité. Et c'était comme
ça. Et pourquoi ça,
ça hein?
Pourquoi ça? Vous avez besoin de parler, de dire les dialogues de...
Oui, oui. Oui.
Mais...
Le gueuloir de Flaubert, bien sûr.
Et comme ça, il m'est venu l'idée qu'il va... il fallait qu'il soit un voyeur, parce qu'il va au début, il se sent coupable de la mort de Gemma aussi. Et bon, il a observé tout ce qui est passé. Pas tout, mais... C'est comme ça, il m'est venu l'idée qu'il va narrater, être narrateur de tout l'histoire. Il a deux autres voix. Il y a la voix de Gemma dans son journal et la mienne. Et moi, je suis un peu the camera parce que j'observe tout.
Mais ça, j'allais dire, c'est même la clé de votre manière d'aborder les sujets que vous traitez, d'aborder le monde que vous décrivez. C'est-à-dire que vous êtes une observatrice, alors certains disent abusée, mais extrêmement pointue. C'est-à-dire qu'on vous imagine, pas seulement dans les périodes où vous préparez un livre, mais j'allais dire presque tout. Vous êtes quelqu'un qui devait vous balader avec un carnet de notes pour prendre des notes tout le temps sur ce que vous voyez. Non, je me trompe, c'est une erreur.
Non, je prends des notes, mais je ne désigne pas très souvent devant les gens parce qu'il y a toujours, un homme qui dit arrête, Esther.
Arrêtez de me dévisager.
Oui, ma femme. Oui.
Oui, mais c'est la tentation que vous avez, c'est de prendre des notes en permanence.
Oui, quoi. Je prends mais si je vois une sac extraordinaire ou quelque chose, je fais comme ça et quand je rentre,
Prenez la photo avec les yeux, c'est ça?
Oui. J'ai fait un petit croquis.
Ça vous a frappé, ça, ce sens du détail précis de l'habillement, du décor, des accessoires?
Le sens des accessoires, incroyable. Tous les détails sont là. Bah oui, ça m'a servi parce que c'est des indications sur les personnages. Il y a un côté fétichiste. Dans le personnage d'ailleurs de
Joubert aussi.
De Joubert, parce que si le nom n'était pas celui-là, s'il y avait Smith, rien ne serait passé.
Ouais.
Moi, je trouvais qu'il avait quelque chose, une parenté avec un Woody Allen français. C'est-à-dire, c'est ce genre de personnage qui vivent par procuration. Moi, c'est ce qui m'a touché. C'est là où j'ai senti un rapport, effectivement, avec un metteur en scène, avec quelqu'un qui a une caméra dans la tête. C'est de vivre les choses intensément par projection et par procuration. Et c'est ce qui le rend émouvant pour moi, le personnage de Martin.
Vous me tendez une perche parce qu'il y a un dernier extrait qu'on peut regarder. Pour les 10 dernières secondes de l'extrait, où la phrase de Lucchini résume ce que vous venez de dire, c'est l'extrait qui s'appelle « La promenade ».
C'est beau ici. Tout est beau. La grande maison derrière aussi.
Ah, la Boissière. Vous l'auriez vu il y a 10 ans, du temps du père Brissini. Il y avait des très très grandes fêtes. Maintenant, c'est une ruine.
Mais j'adore les ruines.
Ah bon? Alors vous allez adorer notre pays, parce que ici c'est tout le patrimoine qui part. Gus, arrête.
Il est cute.
Ouais, c'est un bâtard. Il peut être très très chiant. Enfin, je veux dire énervant.
Carrington aussi. Quelquefois, elle est chiant. je continue l'exploration.
En une seconde, avec ce petit geste insignifiant, c'en a été fini de 10 ans de tranquillité sexuelle.
Il le dit très bien, c'est bien écrit aussi. À l'arrivée, quand vous confrontez le travail que vous avez fait à partir du livre de Pozzi, vous avez le sentiment, comme vous l'avez dit dans le dossier de presse, d'avoir prolongé le livre ou d'avoir...
prolonger, non.
C'est le mot
faire
que vous
vivre autrement, ouais. le livre, je dirais. Surtout, on a collaboré avec Pozzi, donc de très près.
De quelle manière? Oui, j'ai pas posé la question.
En fait, on s'est rencontrés, on a commencé à écrire avec Pascal Bonitzer, et puis il y avait donc les dialogues anglais. Donc, on a demandé à Pozzi si ça l'intéressait de collaborer avec nous sur les dialogues anglais. Et puis, c'était plus profond que ça, parce qu'on parlait aussi des scènes françaises qu'on inventait. Donc, il y a eu ce travail-là, qui n'était pas un travail de scénariste classique, disons. Moi, je ne dirais pas prolongé, mais inspiré fortement sûr. Et il y a des choses, comme vous avez dit, qui sont différentes. Le personnage féminin n'a pas le même ton. Mais je crois que... Je ne crois pas qu'un Français... Enfin, je me suis sentie... je suis française, heureusement, je suis née dans un autre pays, mais je suis française, et j'ai senti quand même tout le temps le souffle anglo-saxon sur moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a portée.
Il y a une différence importante aussi, c'est que toutes les scènes anglaises, parce que dans le livre de Posy, il y a quand même...
Il y en a beaucoup plus.
Il y a quand même une partie anglaise, c'est-à-dire de ce qu'elle a vécu avec son amant qui s'appelle... J'ai oublié le nom.
Patrick.
Tous les Anglais s'appellent Patrick.
Je l'ai tourné en Angleterre. J'ai fait.
Et donc, vous allez dire pourquoi vous avez resserré. Et donc, il y a toute une scène qui explique assez bien pourquoi cet homme était l'homme de sa vie, comment elle est arrivée à Charles un peu par déception et par pis-aller parce qu'elle était complètement perdue. Et toutes les scènes londoniennes ont été supprimées. Alors, la question, c'est pourquoi ?
Alors, il y en avait dans le scénario. Donc je les ai tournés. Il y en avait moins que dans le livre, beaucoup moins, puisque c'était Martin quand même le point de vue du film. Donc s'il était parti pendant un quart d'heure, 20 minutes de film, ça crée vraiment un déséquilibre au départ.
Puis c'était Lucchini, donc on n'avait pas envie de le perdre.
Oui, mais enfin, ça aurait été un autre acteur, ça aurait été la même chose. Mais donc ça n'arrivait pas à rentrer. En fait, c'était comme si c'est un autre sujet. Et dans un livre, c'est pas pareil. C'est pas le même rythme, c'est pas la même temporalité. Donc j'ai été étonnée. Je me suis dit, mais l'Angleterre. Et elles étaient bien les scènes, je crois. Mais elles
rentraient pas.
Donc j'ai dû vraiment faire le minimum en Angleterre.
Est-ce que le fait de parler de ce livre 15 ans après, quasiment 14 ans après. J'allais poser une question un peu brutale. Est-ce que vous n'en avez pas un peu assez? Parce que vous avez fait d'autres choses après. On va le voir rapidement avec les deux autres livres.
Oui, c'est ça.
Non,
parce que...
Non, pas exactement. Parce que quand c'était un feuilleton, c'est vite passé. Puis c'était un livre et... Et les années passent, et puis c'est sorti en France. Il y a des longueurs où je ne pense pas du tout au livre. Mais je veux dire, Anne, que moi, j'avais beaucoup de chance quand j'étais en train d'écrire mon livre, que Gustave Flaubert était derrière mon dos en train d'inspecter mon travail. Et je voulais pas
être le Flaubert d'Anne Fontaine.
Je voulais pas que vous sentez pressé de ma part.
Pressionné.
Oui.
Pressionné, sous pression.
Oui, oui.
C'est vrai, c'est toujours anxiogène.
Oui, oui, oui. Parce que je crois que c'est un film, c'est. Le film
existe en lui-même. C'est ça.
Je voulais que ça va libre cours pour vous.
To let the film be itself as well.
Voilà, je voulais laisser le film vivre sa vie. Il
devienne lui-même, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, Jean-Luc,
je voudrais dire juste un mot, parce qu'il y a un point qui est très intéressant, qui était un peu le point focal de cette rencontre, qui était la conversion d'un mode d'expression à un autre. Et en fait, il y a des contingences qui sont propres au cinéma, qui sont la présence d'acteurs physiques, qu'on ne peut pas maîtriser comme on maîtrise des acteurs de papier. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un déplacement, à mon sens, dans ce film, et c'est ce qui rend ce film très intéressant par rapport au livre, il y a un déplacement de bovarisme, on pourrait dire.
C'est lui qui est Bovary.
Madame Bovary, c'est Lucchini. Parce que Gemma est une actrice tellement fabuleusement belle que ça lui retire ce premier échelon de frustration qui est que c'est une femme, c'est pas une femme ingrate, Emma Bovary,
plus sèche,
mais c'est une femme plus, voilà, moins gâtée, je dirais, par la nature.
Moins lumineuse,
on se dit en tant que garçon, quand on regarde Gemma Arterton à l'écran, on se dit, si j'étais équipé comme ça, franchement, je m'en viendrais jamais dans la vie, voilà. C'est ce qu'on se dit.
C'est
un point de vue de garçon. C'est plus complexe.
Non, si on est un garçon et on la voit, par contre,
de l'extérieur.
On chavire, ça, c'est quelque chose voilà. de.
Mais on n'a pas l'impression que la frustration opérait à ce moment-là. Et lui, Madame Bovary, et ce qui est encore plus fort, c'est que ça en fait, par rapport au livre, où c'est un pitoyable personnage dans le livre, il est très amusant et sympathique. D'ailleurs, il y a un déplacement dans le temps aussi, puisque le livre a été fait 10 ans avant, donc dans le livre, c'est un gaucho. Là, c'est un
il
bobo.
Il vient du Larzac.
Ouais. Il vient du Larzac en deux pattes, en deux chevaux, et là, c'est un bobo. Donc, sachant. Mais surtout, moi, ce que j'avais dit quand on s'était vu sur scène avec Fabrice Luchini, j'avais dit, mais dans ce film, vous devenez une sorte de serial killer. Et je trouve qu'il a dans le regard, à certains moments, et ça,
on
c'est.
Pense qu'il va
ah ouais, qu'il va passer à l'acte brutalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de viol permanent, toujours remis, toujours délayé, et qui se noie dans la littérature. Et c'est une manière d'évaporer la pulsion criminelle ou sexuelle par la littérature, qui n'est pas la même que dans le livre. Voilà. Et ça, vous avez ajouté quelque chose.
C'est exactement ça, oui.
Vous pensez quoi ? Vous êtes d'accord.
Je suis d'accord. Mais je pense
toujours
que
d'accord avec l'éditeur,
tous les joueurs, ils partagent un côté fétichiste mais Joubert, dans le film, il est plus intime avec Gemma.
Ouais.
Le mien est plus distant. Et je crois que dans le film, parce qu'il est plus intime, il est plus imprévisible.
C'est inquiétant aussi.
Donc inquiétant,
oui.
C'est vrai.
Oui, c'est ouais. ça.
Bien. Posy, si vous voulez, on peut dire deux mots des deux autres livres qui ont suivi. Tamara Drew. Et Literary Life, dont je parlais au début, et donner quelques images et montrer, et vous nous direz pourquoi après, la littérature est si importante dans le travail que vous faites, puisque les trois livres ont ça en commun, c'est le livre quand même.
Il n'y en a pas beaucoup.
C'est juste un aperçu sur les deux autres.
Oui, voilà Tamara Drew, qui était en feuilleton aussi dans le Guardian. Pas tous les jours, mais c'était deux fois par semaine. Et le format était carré, plus carré. Et voici Gemma Arterton as Gemma. Et puis
la scène, Stephen Fess, oui.
La scène dans le livre avec les shorts. Et puis. Ça veut dire qu'il n'y avait pas Tamara Drew, elle n'avait pas un journal, mais elle était journaliste. Et ça m'a permis d'écrire de temps en temps ce qu'elle elle travaille pour la presse Caniveau. Donc, elle parle d'elle-même tout le temps et les sacs et les mecs et tout ça. Et de temps en temps, il y a des articles d'elle. Et dessous, il y a la première fois qu'elle rencontre le mari un dragueur, non? Oui. Oui. J'ai fait pendant deux ans des comiques par semaine pour le supplément littéraire. Et je vais demander à mon ami Jean-Luc de traduire, ou peut-être pas.
Si, je peux traduire si vous voulez. C'est non, Peggy, tu te trompes. Je pense que le chevalier blanc était le pénis de Lewis Carroll.
C'est une phrase que vous avez entendue, ça.
Oui, mais pas avec des schoolgirls.
Il y avait un docteur...
Alors ça, c'est dans Literary Life. Donc, il faut dire pour les gens qui n'ont pas lu le livre que c'est un recueil de dessins, de chroniques, de strips que vous avez fait autour de la vie, sur la vie littéraire, dans tous ses aspects, c'est-à-dire dans le côté un peu désespéré des auteurs qui n'ont pas de lecteurs, du côté de la frime de ceux qui en ont beaucoup et qui se demandent s'ils doivent poser pour des publicités, pour un slip, est-ce que Garcia Marquez l'aurait fait, est-ce que Tolstoï l'aurait fait, et tout ça. Et puis c'est le drame des petits libraires, c'est la difficulté, mais tout ça avec un humour. C'est-à-dire, je trouve que dans ce livre, il y a à la fois de l'empathie, c'est-à-dire vous aimez ces gens... Et en même temps, c'est très satirique, quoi. C'est vous mettez le doigt à chaque fois sur le petit défaut, le petit truc qu'ils ont.
J'ai beaucoup de sympathie pour les écrivains et surtout pour les petites librairies.
Et les écrivains qui, dans les signatures dans les librairies, mesurent la longueur des queues devant leur table et en subissent des traumatismes parfois irréversibles parce qu'il n'y a personne, quoi. C'est des choses comme ça. Oui. Et donc, vous avez inventé des personnages de fiction, dont le docteur. Qui est censé soigner les névroses des auteurs qui sont en panne d'inspiration.
C'est ça. Il accompagne les auteurs de la conception jusqu'à l'accouchement du livre.
Et c'est une parodie des soap opéras puisqu'il est... épaulé par une infirmière, nurse, je ne sais plus son nom.
C'est Tozer.
Qui essaie de réconforter comme elle peut les auteurs grâce à un physique qui va avec. Quoi, voilà.
Il peut traiter tous les mots littéraires comme des blocages.
Non, mais ce qui est vraiment très réussi, c'est que vous avez une manière de décortiquer les névroses, les travers, les souffrances, sans que ce soit jamais agressif, quoi. Il y a quelque chose d'à la fois très juste, très pointu, et en même temps, on sourit parce que ces gens-là, vous les aimez bien, quoi. On a l'impression.
Et c'est un livre qu'on a fait parce qu'en tant qu'éditeur, on était en manque de Posy Simmons. Il nous fallait absolument, on avait envie de publier un livre avant l'arrivée de Gemma pour faire une espèce de bombardement de tapis de bombes préparatoires pour l'arrivée du film.
Créer le buzz.
Et voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce livre qui est paru en 2003 chez Jonathan Cape en Angleterre, que je trouvais pas très joli dans sa version anglaise parce qu'il était sur un papier un peu mochard, un peu jaune, etc. Et on a rajouté énormément de pages. Donc la version française est une version en réalité qui ressemble pas du tout à ce qui existe ailleurs.
De bien meilleure qualité.
Je sais pas s'il y a une meilleure qualité, mais elle est beaucoup plus complète. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de pages.
L'auteur dit oui.
Bah, Posy m'a fait des compliments, mais je ne vais pas les dire ici. C'était beaucoup plus de pages et on a mis de la couleur dedans, ce qui est aussi une chose qui n'existait pas en Angleterre. On a mis dans les cartoons, c'est-à-dire les dessins uniques.
Je vais faire juste une petite précision, couleur. C'est qu'on a l'impression que ces auteurs sont très anglais, les librairies sont très anglaises, les échanges sont très anglais. En même temps, il y a quelque chose d'universel, quoi. C'est-à-dire que l'auteur romancier mal dans sa peau, qui rêve du succès et qui ne veut pas en avoir trop parce que ce n'est pas très bien vu non plus d'avoir trop de succès. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas un vrai auteur et tout ça, on a l'impression que ça pourrait être français, quoi. Donc je dis ça pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, c'est un livre qui n'est pas à décrypter avec un regard anglais, qui est un livre savoureux, formidable. Et on a beaucoup parlé, y compris d'ailleurs sur... Non mais essentiellement à propos de ça, il y avait une inspiration qui s'approchait de Sampé. Et je ne sais pas je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a cette même acuité dans le regard sur un milieu et avec un regard qui n'est jamais méchant, qui n'est jamais...
Ça, c'est vrai. Oui. Il y a cette espèce de capacité à satiriser quelque chose sans cruauté et avec une empathie profonde pour le sujet qu'on aborde, qui est présente chez Sampé tout le temps.
Vous l'avez lu ? Vous êtes... ouais. Et vous aviez lu Tamara ?
Oui, voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle, le film de Stephen Frears a procédé un peu à la même démarche qui était d'adoucir un peu le ton qui était plus noir dans le livre que dans le film. Ouais, c'est assez curieux.
Parce qu'il y avait une mort de jeune fille dans le livre, ce qui est très très violent.
Dans Tamara, il y a une mort quand même.
Encore une fois, les conséquences de ce qu'on voit à l'écran ne sont pas les mêmes que ce qu'on lit dans un livre, parce que la distance est réglable avec un livre, alors qu'à l'écran, on se prend plein face et c'est comme ça.
En fait, vous n'avez fait de livre que sur des tragédies, quelque part. Et c'est très drôle. C'est-à-dire que vous avez l'art de transformer les tragédies en livres drôles.
Oui, un peu. Mais Anne, Tu as dit quelque chose de très intéressant sur le sujet de, des choses qui ne marchent, qui marchent peut-être dans un livre, mais qui ne marchent pas dans, le, dans un film. Parce que c'est une question de temps ou de... Par exemple, vous, c'était la scène qui venait de la partie de Jean Bonlaire dans le parking souterrain. Ah oui. Ah, mais c'est le, la scène infâme de Flaubert, c'est le fiacre.
Et, oui, il y a une scène dans un parking où en fait son amant anglais, donc elle remettait les choses. Et alors c'était dans une camionnette qui était secouée par les halètements et par la scène sexuelle. Quand j'ai commencé à préparer cette scène, tout d'un coup, l'idée que Martin Joubert aille dans le parking, ça l'affaiblissait énormément, ça le rendait vraiment au bord du pathétique, ce qui n'est pas le cas dans le roman graphique. Et ensuite, de la voir, elle aussi, s'adonner à ça, comme ça, brutalement et tout, il y avait quelque chose qui basculait dans quelque chose d'assez grotesque. Mmh. Alors que dans le dessin, c'est au contraire, c'est amusant, c'est extrême. Et c'est vraiment le dosage humain qui est différent. Oui. C'est vraiment le taux d'humanité qu'on veut ou pas. Et on bascule très vite dans un film sur quelque chose qui, tout d'un coup, est parodique, mais pas au bon sens du terme. Il y a de la parodie qui est intéressante, mais si on lâche le personnage et si on le laisse dans quelque chose de trop ridicule par rapport, tout d'un coup, il est cassé, ce personnage. Donc c'est vrai que c'est pas le même dosage, parce que comme vous avez dit très justement, c'est une question de distance. Dans un film, un acteur exprime un nombre de choses, rien que sur un visage, sur le non-dit, sur le désarroi. Donc vous avez une interprétation qui est beaucoup plus ample d'un point de vue humain sur le... Et dans un dessin, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est accroché. Mais on ne plane pas à l'intérieur. On se met pas dans le cerveau, exactement. On est complice, on est amusé, mais on rentre différemment dans l'être humain.
Oui. Et moi, je crois que la différence, parce qu'un film se déroule devant nos yeux, on continue. Et avec un BD, on peut aller repartir en arrière, on peut avoir des pauses, on peut voyager dans les images. Et je crois que c'est tout à fait la différence d'être, de voir un film et de lire.
Ah oui, c'est un voyage différent.
Oui, c'est ça.
Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment intéressant, d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas pris, évidemment, le livre comme un storyboard. Ça aurait été absurde. Même si...
J'ai posé une question absurde. Donc.
Oui. Non.
Il fallait bien que quelqu'un la pose. Bien, donc, vous avez compris qu'il faut à la fois lire le livre et voir le film. C'est le principe de ce genre de rencontre. Le public a le droit de poser des questions et de commenter et de donner son point de vue s'il a vu le film, s'il a lu le livre ou pas. Donc voilà, maintenant c'est à vous de dire, de prolonger. Si j'ai encore une question pour poser, c'est que j'ai lu partout que vous étiez en train de préparer un autre livre, une autre adaptation. J'ai vu nulle part le titre. Alors c'est un secret, c'est ça ?
Le titre, c'est...
Ben, le livre qui servirait de déclic.
Le livre...
Et il veut savoir quel livre...
Ah, ça, c'est un secret.
Impossible.
Ah oui, c'est secret.
Même si j'insiste, c'est non.
Oui, mais... Même
d'accord.
Vous insistez.
Même moi, je ne le sais pas.
Moi, tiens, tu parles. Bien, maintenant, on va passer aux questions, s'il y a des questions. Dame là-bas.
Bonsoir, merci pour cette soirée si animée. Moi, j'aurais voulu savoir, je suis ni anglaise ni française, moi je viens de l'Europe du Sud-Est, mais j'ai lu Madame Bovary comme tout le monde, et un français, ma langue maternelle, qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Alors, et justement, j'aurais voulu vous demander, est-ce que le public anglais d'abord a vu le film Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des compatriotes de Madame dont le pays se trouve en face de la France? Et puis, c'est une question journalistique, je suis journaliste. Et une autre question, comment on ose adapter, même si c'est une bande dessinée pour Madame Fontaine, qu'est-ce que vous vous êtes dit en commençant le film? Je vais faire Madame Bovary un peu, ou je vais faire un peu la bande dessinée?
Je ne me suis jamais dit... D'abord, je vous réponds sur l'Angleterre. Donc, le film vient d'être acheté en Angleterre, en Australie, en Amérique, dans les pays anglo-saxons. Donc, c'était à Toronto, là, que le film était à Toronto. Donc, voilà. Donc, on va voir comment ils vont réagir. J'espère avec de l'humour, parce que c'est quand même censé être une comédie cruelle, mais une comédie. Évidemment, je ne me suis pas dit que je suis en train d'adapter Madame Bovary. Ça veut dire que j'aurais été vraiment... dans un état particulier, si j'avais pensé ça. J'aurais été à un rapport à la lucidité assez critique. Mais bon...
C'est bien dit.
Mais non, moi, j'ai eu, comme je vous ai dit, une empathie pour Gemma Bovary. Ça change tout. C'est pas une décalcomanie de Madame Bovary. Ça serait absurde. Ça joue avec l'idée, mais ça joue. Donc, à partir du moment où ça joue, il y a un air différent. Moi, je pense que d'adapter Madame Bovary au sens classique du terme, pour moi, ça serait quelque chose que jamais je m'y mettrais. Jamais.
Ça aurait été moins drôle, en tout cas.
Ça aurait été moins drôle. Et puis bon, d'autres l'ont fait, mais même dans ceux qui ont été faits, on sent le poids, quoi. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Même avec une grande actrice comme Isabelle Huppert,
Chabrol,
c'est lourd, quoi. Enfin, je ne veux pas dire. Non, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est vraiment parce qu'il y avait... Moi, j'ai tout, et puis, moi, je connaissais un garçon qui était un obsédé de Madame Bovary. Et ce garçon, je l'ai rencontré quand j'avais 23 ans. Et ce garçon, c'était Fabrice Soucchini. Et donc, il me parlait tout le temps pour me draguer, n'importe quoi, pour dîner. Il me parlait tout le temps de Madame Bovary. J'en avais ras-le-bol. Et de surcroît, il a appelé sa fille
Emma.
Ouais. Donc, je connaissais un serial, comme vous dites, killer littéraire. Et donc, ça m'a touchée personnellement, bien sûr. Parce que moi, je ne fais pas un film si ça ne me touche pas personnellement, quel que soit le sujet. J'ai besoin d'avoir une empathie personnelle dedans, même si ce n'est pas moi qui ai du tout inventé le sujet. Mais j'ai besoin de le rapprocher. Voilà.
Et Posy, ça vous a paru évident tout de suite qu'il fallait que ça s'appelle Gemma Bovary, c'est-à-dire que l'allusion soit aussi marquée.
C'est aussi GB.
GB.
Pour les Anglais.
Ah ouais.
Grande-Bretagne. Oui.
Ah, mais j'avais pas pensé à ça.
Bonsoir. Il y a une question pour l'adaptation, justement, pour une question pour Madame Fontaine. En fait, ce film a été adapté, justement, sur la bande dessinée. L'année dernière, au Festival de Cannes, on savait que La vie d'Adèle était aussi adaptée de bande dessinée de Julie Marot. Donc, en fait, il y a toujours cette question de fidélité envers l'œuvre originale. Vous dites tout à l'heure que vous êtes fidèle et ne pas fidèle. Donc, je veux bien savoir de quelle partie vous voulez être fidèle et de quelle partie vous permettez de justement prendre cette liberté de l'exploration, de l'extension dans l'œuvre. Merci.
Par exemple, je vous donne un exemple concret dans le film que vous n'avez peut-être pas vu. Il y a une scène où Fabrice Soucchini, donc Martin, apprend à Gemma comment on masse la pâte pour faire du pain. Donc c'est une scène para-érotique par le pain, par l'apprentissage du pain, qui met le personnage dans un état vraiment de grand frémissement et de grand danger psychique. Et cette scène, qui est une scène érotique oblique, Bon, par exemple, ça, si je ne me trompe pas, enfin, je pense qu'elle n'existe pas. Je ne sais même plus d'ailleurs parfois si ça existait ou pas. C'est un moment particulier qui tout d'un coup incarne le rapport au désir qu'a ce personnage face à cette femme qui le bouleverse d'une certaine façon. C'est comme un homme qui est bouleversé dans le film, un peu plus, comme disait Posy, que dans le roman de Posy, où il est plus distancié. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des scènes, des situations où tout d'un coup vous faites vivre à travers le personnage ce désordre des sens. La fin, je ne la dirai pas, mais la fin, c'était vraiment une option qui était déjà d'ailleurs vraiment dans le livre, hein, parce qu'il y avait une phrase, évidemment, mais qui se terminait de manière très abrupte. Il y a un épilogue qui change le ton de la fin du film, par exemple. Donc, c'est pas calculé, c'est que quand on rentre dans la matière pour écrire un scénario, on doit prendre de la liberté. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Qu'on applique littéralement quelque chose, c'est desséchant pour le film, et le livre, il est suffisamment fort pour pas avoir besoin d'être adapté. Il n'a pas besoin d'être adapté, un livre. C'est pas le même, non, c'est pas la même incarnation, c'est pas le même rapport.
Le problème du temps, hein, de
le
la,
rapport
durée,
au temps.
La durée.
Il y a des choses qu'on peut pas mettre. Par exemple, il y a une chose très intéressante dans le livre de Posy que j'ai dû ramener vraiment au minimum, qui est le journal de Gemma. Ah oui. C'est son livre. Il y a la voix de Gemma tout le temps. Bon, moi ça n'est pas rentré comme ça. Je l'ai de manière très très laconique.
À Posy Simmons, votre prénom Posy, est-ce que c'est le même mot que le mot français poésie?
Non, je... I'm sorry. oui, poésie, c'est...
Mais c'est aussi joli. Hein.
Oui. Poésie, c'est un
poésie
peu
Simon,
c'est poésie.
Non, mais poésie, c'est joli aussi.
Poésie,
c'est un surnom.
Je m'appelle, mon vrai nom, c'est Rosemary.
Mais
c'est pas mal. Mais quand j'étais très petite, c'était mon père qui m'appelle Rosie Posy. Et Posy veut dire en anglais aussi une toute petite bouquet de fleurs. C'est ce qu'on donne à la reine, à Posy. C'est pour un enfant, ça va. Je suis contente. Mais...
c'est notre petit bouquet.
Merci. Est-ce que je peux demander mon question en anglais que... Oui. Je peux essayer. Mon question, c'est pour Posy Simmons. C'est à propos de la pré-production. Okay. It's about the process of writing it. You knew how many weeks you were writing for. How did you? But you didn't know the end when you started. How did you balance the sequences of?
Oui, je vais traduire d'abord la question. Vous saviez dès le départ le nombre de semaines que vous auriez à fournir dans le processus de pré-production du livre. Comment avez-vous équilibré les épisodes
oui.
pour couvrir le nombre d'épisodes qui vous étaient demandés?
Sans
connaître la fin. Oui.
Bon, j'ai fait un plan. Et tous les couleurs veulent dire various things. J'ai pas mes lunettes. Ça me fait rien. Oh, oui. J'ai fait un outline. Et c'était un peu comme j'écris quelques mots. Épisode sixième. Elle va rencontrer Joubert pour la première fois, épisode 12. Elle va elle en a marre de Normandie, elle commence à maigrir, épisode 15, elle rencontre, pas Rodolphe, mais Hervé. C'était comme ça, j'ai écrit the shape of it.
C'est oui, la forme.
Et c'était... it was to live dangerously. C'était de...
Oui, c'était vivre dangereusement.
Oui, de vivre dangereusement. J'avais l'impression... J'ai rêvé une nuit que it was like a bobsleigh, and I'd got on the back of it and just went vroom.
Voilà, tout le monde a compris. C'était comme faire du bobsleigh en étant assise à l'arrière, et tout d'un coup, vroom, c'est parti.
Oui, c'était. Mais au même temps, quand j'étais en train de l'écrire, je savais ce qui se passera. Dans 10 semaines ou 15 semaines. Mais c'était un drôle. Mon mari dit tout le temps, pourquoi ne faire tout en avance et éviter tous ces paniques? Et moi je dis, mais j'ai besoin de panique.
Une dernière question?
Alors, moi, j'ai lu Flaubert il y a longtemps, très longtemps. Je n'y ai plus pensé. Je n'ai pas lu votre livre et je n'ai pas vu votre film. Mais d'après ce que vous nous dites, on a l'impression, et c'est ça que je trouve très, très intéressant dans cette réunion ce soir, peut-être j'ai tort, c'est qu'on a l'impression que ce sont des espèces de miroirs. C'est-à-dire qu'il y a trois espèces de facettes. Et moi, j'ai envie de reprendre le livre avant de lire votre livre et d'aller voir le film. Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire ou si je ferais à l'inverse, à l'envers, mais je trouve que c'est très, très intéressant ces multiples facettes. La deuxième chose que je voulais quand même dire, c'est que moi, j'ai lu, il y a longtemps, les scénarios d'Éric Rohmer, qui est quand même quelqu'un de très littéraire. Et en fait, les scénarios d'un film, ça fait 30 à 40 pages.
104.
104 pages.
Mais ça dépend du film. Mais Rohmer, ça m'étonnerait que ça fasse 30-40 pages. C'était archi-dialogué.
Mais oui, mais c'était chaque... Vous savez, les premiers qui l'avaient fait, qui sont une suite.
Peut-être les premiers, mais... Oui, mais...
Et c'était autour de 40 pages. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un film comme vous avez fait ou un texte qui est une sorte de résumé dessiné avec un autre avec peut-être pas résumé, enfin je me suis peut-être pas bien exprimée, mais avec un livre qui est quand même un pavé.
Masse.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que par exemple, j'ai vu à l'est d'Éden, c'est 20 pages du livre de Steinbeck. Donc, je crois que si... on ne peut pas comparer, voilà ce que je voulais dire. Mais ceci dit, moi, j'ai trouvé très, très intéressant votre trio.
Enfin, tant mieux. Bon.
Eh bien, ce sera alors peut-être le mot de la fin. Merci,
merci
Anne Fontaine, merci Posy Simmons, Jean-Luc Fromental et... Un grand merci à Jean-Claude Loiseau pour son animation.